Donc, rebonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je remercie le groupe Belgique pour l'organisation et l'espace aujourd'hui qui va nous permettre de dialoguer ensemble. Je vais rapidement me présenter. Je suis donc doctorante en anthropologie historique à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et je travaille avec les communautés paysannes et guaranies dans le nord-est de l'Argentine, dans la province de Corrientes, que vous pouvez voir en rouge sur cette magnifique carte, très belle. Donc, je travaille essentiellement dans cette province qui est limitrophe avec le Paraguay et le Brésil. Et je travaille essentiellement dans la zone géographique qui s'appelle les estuaires de Libera, qui est une zone humide de 1 300 000 hectares. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grandeur, qui a été reconnue zone humide d'importance internationale par la convention Ramsar. La convention Ramsar, c'est une convention international qui reconnaît dans le monde entier les zones humides à protéger. Du coup, je travaille dans cette zone géographique avec donc les communautés paysannes et guaranies. Et principalement avec deux fédérations. Je vous ai remis, parce que je trouvais pas dans la carte, pas très bien. Je vous ai remis des photos. Alors, je vais un peu expliquer ce que c'est les estuaires de Libera, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est une grande zone humide faite de lacs, d'îles, de forêts. Et si vous voulez, c'est comme une grosse éponge. C'est-à-dire que ça absorbe l'eau, oui. Il n'y a aucune rivière, il n'y a aucun fleuve. C'est essentiellement de l'eau. Donc c'est comme une grosse éponge. Ça se gorge d'eau et en période de sécheresse, le niveau d'eau descend. Donc là, je vous ai
Faible,
mis
avec le temps savamment
quelques
détruit par
photos,
l'ignorance.
voilà, pour illustrer. Par exemple, là, la photo de gauche. Par exemple,
Bizarrement,
on
puisque
se
vous
déplace
savez
essentiellement
certaines
en tracteur, par
transpirations qui sont liées
exemple,
au
et du
langage,
coup, là à
mais
gauche,
plus
vous
sûrement
avez
au niveau de
donc
tout le
un
fonctionnement
passage.
de.
Donc, le tracteur va aller dans ce passage. Du coup, il y a de l'eau jusqu'à hauteur de la roue du tracteur, et il y a d'autres passages où c'est sec, essentiellement du sable. C'était pour un peu vous montrer, et aussi pour vous montrer le pâturage des animaux, puisque les communautés paysannes et les communautés guaranies font pâturer les animaux dans ces immenses étendues d'eau et d'herbe. Donc voilà, à savoir que ça s'étend sur 1 300 000 hectares. Donc ça, c'était un peu des éléments contextuels. Donc je disais, donc je travaille avec la Fédération paysanne guaranie, qui regroupe des communautés paysannes et les communautés autochtones du nord de l'Argentine, qui s'appellent, ce sont les communautés guaranies, qui parlent guarani et qui ont une culture axée sur la culture guarani. Et je travaille également avec la Fédération des travailleurs de Corrientes, qui est une fédération beaucoup plus récente, qui date de 2017-2018. Donc, à savoir, la Fédération paysanne guarani, c'est une fédération qui est beaucoup plus axée sur le rural. Et la Fédération des travailleurs de Corrientes, c'est une fédération axée plus en milieu urbain, et qui regroupe différents gremios, c'est-à-dire différentes corporations de métiers, comme on peut voir à droite, par exemple, les charretiers. Et eux, par exemple, ils travaillent au recyclage, c'est-à-dire qu'ils vont faire le tour de la ville. Leur outil de travail, c'est la charrette et les chevaux. Ils vont faire le tour de la ville pour aller récolter les détritus et faire du recyclage par la suite et envoyer tout ça à Buenos Aires, donc à 1 000 km, pour que ça soit recyclé. Donc je travaille essentiellement avec ces deux fédérations, en sachant que la stratégie, ça a été de développer deux fédérations complémentaires, une axée sur le rural, une axée sur l'urbain, ce qui apporte beaucoup plus de poids politique et est complémentaire au niveau productif. Par exemple, la Fédération paysanne Guarani va plus avoir une production d'aliments agroécologiques et la Fédération urbaine, c'est plus, par exemple, ça regroupe aussi tout ce qui est couturière, pêcheur, donc charretier, etc. Donc, ce que j'ai oublié de dire, c'est que ces deux fédérations suivent la ligne de l'écologie sociale de l'anarchiste nord-américain Murray Bookchin. Et donc, son mode d'organisation, c'est un modèle d'assemblée. Donc, chaque coopérative a des assemblées, et ce sont des coopératives libertaires. Les décisions se décident lors des assemblées, et c'est les assemblées qui ont le pouvoir décisionnaire. Donc, je disais, comme ça suit la ligne de l'écologie sociale libertaire, l'idée a été de recréer des corporations de métiers regroupées dans plusieurs coopératives. Et chose que je reprendrai par la suite, c'est un développement du travailleur indépendant, justement, parce que ces travailleurs informels, par exemple les pêcheurs ou les charretiers, n'ont aucune protection sociale. Ce sont des travailleurs informels, on les appelle comme ça, ils n'ont aucune protection sociale en Argentine et ils représentent 30 à 40% de la population en Argentine. Donc la stratégie de créer des gremios, c'était de les regrouper à l'intérieur d'un régime fiscal qui s'appelle le régime du monotribut et qui s'apparente au régime des travailleurs indépendants, si vous voulez, mais je le développerai plus tard. Donc, l'objectif, je l'ai déjà dit, c'était la création de plusieurs fédérations de production pour l'instant, urbaines et rurales, avec un usage complémentaire. L'objectif également, c'était de renouveler le tissu productif, que ce soit en milieu urbain ou rural, pour assurer une sécurité alimentaire et une souveraineté alimentaire, avec le développement notamment d'une production agroécologique, parce qu'il faut savoir que les aliments, les fruits et les légumes que vous pouvez avoir dans cette province viennent du Brésil, ce qui est une aberration. Les fruits et les légumes sont importés de Brésil, et c'est des fruits et légumes rempli de pesticides à la qualité vraiment désastreuse. Donc, c'était un objectif aussi de développement d'une production agroécologique locale. Donc, je vais développer plusieurs problématiques lors de cette intervention. Alors, ce sont des problématiques qui se recoupent, bien évidemment. Donc, du coup, vous avez la problématique territoriale avec les conflits entre propriétés de fait. Alors, propriété de fait, c'est une propriété qui est établie à Corrientes et qui est vraiment commune, c'est-à-dire que les paysans ou les communautés s'installent sur une terre et en font leur terre. Justement, en font leur propriété, puisqu'il y a une loi implicite dans la province de Corrientes, c'est cultiver, c'est posséder. Donc, ça rejoint le slogan que l'on peut voir dans les manifestations, Terre et liberté, slogan anarchiste qui vient du Mexique, bien évidemment. Et du coup, cette propriété de fait, comme les paysans ou les communautés n'ont pas de titre de propriété, s'affrontent à la fois à la propriété privée des entreprises extractivistes qui peuvent s'installer dans la région, mais aussi à une propriété publique. Par exemple, je pense à la création de la réserve naturelle ou du parc national qui reconfigure tous les chemins d'accès. Donc, c'est à la fois un conflit face à la propriété privée et propriété publique. Ce sont deux choses à savoir très importante. Et du coup, après, vous avez la problématique environnementale avec du coup l'arrivée de ces entreprises extractivistes avec l'utilisation de pesticides. Et l'utilisation de pesticides va faire que ce n'est plus possible de semer ou d'avoir le potager communautaire. Donc, vous avez des pertes des terres communautaires, la disparition de villages et de hameaux. C'est ce qu'on appelle une zone de sacrifice, puisque ça rejoint le problème suivant, problème économique, c'est-à-dire que comme vous n'avez plus possibilité de semer et de faire un potager communautaire, vous avez un flux migratoire vers les grandes villes. Et là, vous avez une consolidation d'un salariat précaire, sans protection sociale, et bien évidemment une déstructuration du lien communautaire. Et c'est un salariat précaire, justement, donc sans protection sociale. Bien évidemment, ils sont pour la plupart au noir. Et c'est aussi sans protection physique, puisqu'il n'y a aucune protection physique. Alors, pour vous donner un peu d'idée, les entreprises extractivistes, c'est les monocultures de pain et c'est aussi les monocultures de riz. Donc, les monocultures de pain, ça veut dire... ils vont couper des arbres, etc., sans protection physique. Et du coup, j'ai mis une problématique économique bis, puisque l'arrivée de ces entreprises extractivistes dans la région est fondée sur un modèle agro-exportateur de matières premières dans les années 2000. Et du coup, pour pallier au problème de flux migratoires, notamment des plus jeunes vers les grandes villes et la consolidation de ce salariat, d'abord, la Fédération Paysanne Guarani s'est construite. Et du coup, la stratégie a été la construction de coopératives en les mettant, en les affiliant sous le régime fiscal donc du monotribu et qui s'apparente au régime de travailleurs indépendants, mais qui du coup est un régime fiscal avec une forte dimension assistentielle de protection sociale. On le verra, je le développerai plus tard. Donc du coup, j'ai dit qu'il y avait le problème de l'arrivée de ces entreprises extractivistes, donc et l'usage de ces pesticides, mais il y a aussi la création du parc national et de la réserve naturelle dans la province de Corrientes, impulsée par le gouvernement de la province, et aussi par une fondation de protection de la nature nord-américaine, The Conservation Land Trust, fondée par Douglas Tompkins, et qui prône justement l'écologie profonde et ce magnifique concept qui est la production de nature. Donc, la production de nature comme création de valeur. Moi, je ne savais pas que la nature crée de la valeur en elle-même. Je croyais que c'était le travail. Donc, c'est un très beau concept intéressant. Donc, l'écologie profonde de Arnenès, qui discute beaucoup avec Murray Bookchin, justement, qui vient de l'écologie sociale, pense la nature comme une nature sous cloche. C'est-à-dire, c'est vraiment parc national et s'inspire vraiment, par exemple, du parc national Yellowstone. Donc, c'est une nature vierge, sans communauté, où, par exemple, là, dans la province de Corrientes, vous avez des projets de réintroduction d'animaux en voie de disparition. Et l'objectif, c'est la réintroduction de ces animaux. Par exemple, à droite, vous avez le cerf, mais aussi vous avez le fameux jaguar qui est réintroduit progressivement dans ces estuaires de Libera. Et c'est censé... apporter, être le moteur économique de la région, développer le tourisme dans la région, l'écotourisme, sous forme, comme est fait en Afrique, sous forme de safari. Donc, on réintroduit les animaux en voie de disparition. Et puis après, il y a les touristes français, japonais, anglais qui viennent et avec leurs gros 4x4 et puis qui font les petites photos de ces animaux. Moi j'ai appelé ça un monument naturel, mais vous avez également le monument culturel, où là les communautés paysannes sont intégrées là aussi à l'intérieur de ce moteur économique qu'est le tourisme, là aussi avec la consolidation d'un salariat. C'est-à-dire que vous avez la création d'hôtels touristique. Donc, la problématique principale, c'est la population locale qui vivait dans les estuaires de Libera. Les communautés se retrouvent employées, domestiques, dans les hôtels touristiques pour faire le ménage. pour faire le ménage ou la cuisine. Donc, certes, c'est créateur d'emplois, mais d'emplois précaires et bon, la population locale qui devient employée dans des hôtels touristiques, on pourra en reparler. Donc, le parc national, comme moteur économique, ça apporte diverses problématiques. Donc, j'en ai déjà parlé, le tourisme d'élite, mais aussi la construction d'une biodiversité hors sol, si vous voulez, c'est-à-dire on préserve une biodiversité peu commune comme le jaguar. On va pas, on va, c'est pas une biodiversité de la vie quotidienne de la population locale, la plante, l'arbre, c'est vraiment une biodiversité avec un objectif de développement de tourisme d'élite. Et par rapport à l'inclusion des sociétés dans ce schéma, vous avez donc l'opposition entre indien écologiste versus indien paléo-terroriste. Alors, l'indien paléo-terroriste, je trouve ce terme très heureux. C'est d'un chercheur, un anthropologue qui s'appelle Guillaume Bocara. Ces populations ont le choix entre donc être catégorisées sous forme d'indiens écologistes protecteurs de l'environnement ou s'ils ne sont pas d'accord, et ce sont des indiens paléo-terroristes. Non protecteur de l'environnement et donc ennemi du moteur. Donc, oui, il y a une autre problématique également, c'est que cette création d'emplois amène une rémunération à la tâche, c'est-à-dire que la population locale travaille pour les tours opérateurs touristiques et sont rémunérés à la tâche, c'est-à-dire une heure de balade en barque ou une heure de balade en cheval. Donc c'est là également, il n'y a aucune protection sociale et c'est vraiment un salariat précaire. Donc il faut vraiment retenir que c'est une consolidation d'un salariat précaire autour des exploitations extractivistes, mais aussi autour des activités du tourisme. Donc là, je vous ai mis des exemples de fonds extractivistes, donc monoculture de pain et de riz, par exemple, avec l'université d'Harvard et son fonds d'investissement Harvard Management Company, qui ont impulsé la culture de pain dans la province. Également, la monoculture de riz par l'ex-présidente du MEDEF, qui fait de la monoculture dans la région et qui pollue assez sensiblement les eaux alentour. Donc là, vous avez une campagne contre les monocultures de riz. Pour terminer, je vais terminer sur le régime du monotribut et le statut de travailleur indépendant. Donc, comme je l'ai dit, c'est un régime qui permet d'inclure ce qu'on appelle le travail informel, les travailleurs informels, c'est-à-dire les travailleurs qui n'ont pas accès à la protection sociale en Argentine, donc qui sont 30 à 40% de la population. Et à savoir que c'est des populations avec des métiers à faible capacité contributive limitée, c'est-à-dire qui ne retirent pas un salaire suffisant pour pouvoir cotiser au régime de sécurité sociale. Donc là, je vous ai mis. Alors moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la protection sociale en Argentine, mais je vous ai mis le peu d'éléments que je connais. Donc, le monotribut, c'est une seule contribution, c'est-à-dire l'impôt intégré, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu et la TVA, et les cotisations assurance maladie et retraite. Donc, quand vous êtes affilié à ce régime fiscal, vous avez droit à la prestation basique universelle, au programme médical obligatoire, et vous versez des contributions au régime de retraite publique et au régime national d'assurance santé. À savoir, alors attendez. Juste, ça, j'ai pas très. Il y a des contributions volontaires et obligatoires. La nuance, je sais pas si je suis pas du tout spécialiste. Donc, vous avez des contributions volontaires par rapport, je suppose, à votre niveau de salaire pour pouvoir cotiser après ultérieurement. J'en suis pas vraiment sûre, mais du coup, moi, dans mes deux fédérations, ce qui a été développé avec les travailleurs de la fédération et les communautés, c'est qu'ils sont affiliés au monotribu social rural, et du coup, qui a été créé à partir de 2009, et le monotribu à coût zéro, c'est-à-dire que comme il se dégage un très bas salaire, ils ne peuvent pas cotiser. Donc, c'est le ministère du Développement social et le ministère de l'Agriculture qui prennent en charge ces contributions. Donc, c'est pour ça que j'ai marqué dimension assistentielle de ce régime fiscal. Mais du coup, je voudrais en parler plus longuement avec vous. Parce que, enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Une de mes réflexions et une des réflexions qu'on a à la fédération, c'est bon là la stratégie c'était celle-ci hein, de s'affilier à ce régime, de faire des travailleurs indépendants pour contrecarrer, on va dire, la consolidation d'un salariat précaire et donc du coup de reformer un tissu productif au niveau local. Mais comment s'affranchir à long terme de cette dépendance au régime du monotribu fondée sur cette logique? Puisque essentiellement les travailleurs de ces fédérations vivent grâce à ces aides sociales de l'État. Une autre réflexion finale, c'est quelle nature voulons-nous? Une nature dédiée au tourisme ou à la production alimentaire locale et agroécologique? Et là, je voudrais faire le pont avec la France. Donc, bon, bien sûr, il n'y a aucune comparaison possible, mais vous avez aussi en France cette tendance à la figure du paysan. Alors, je vais faire un néologisme, à muséifier la culture paysanne, c'est-à-dire que vous avez des musées de la tradition, musées de la paysannerie. Donc, est-ce que les paysans ont vraiment disparu? Voilà. Donc, c'était vraiment pour faire le pont. À savoir que je travaille également dans une zone humide en France, qui s'appelle le Marais Vernier, qui est en Normandie, et c'est vraiment rigolo parce que c'est vraiment les mêmes mécanismes qui sont mis en place. Enfin, c'est assez. Par exemple, dans le Marais Vernier, vous avez la création d'une mini minuscule réserve naturelle avec la réintroduction d'animaux, mais des animaux qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et donc la protection de la nature, c'est juste cette petite réserve naturelle. Et à côté, vous avez les gros pylônes qui polluent pour donner l'électricité au Havre. Donc, c'est vraiment les mêmes logiques. Et cette zone a été labellisée zone Ramsar récemment. Convention Ramsar, que je tiens à rappeler, a fait un partenariat historique avec Danone et Evian, ce qui est rigolo, et qui met en place le fonds carbone pour des moyens d'existence durable autour du marché carbone. Ça, on pourra en reparler également. Donc c'était ça mes réflexions finales, et aussi également comment faire, qui est-ce qui fait et construit les définitions? Est-ce qu'on peut avoir une définition par le bas de ce qu'est la nature, de ce qu'est la biodiversité, du patrimoine naturel et du patrimoine culturel? Voilà. C'était les réflexions que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si on peut faire des ponts. Donc vous me direz. Donc voilà.
Alors, dans les questions de précision, on a en premier une question qui demande quelle est la différence entre anthropologie historique et anthropologie tout court?
Très bonne question. Non, l'anthropologie historique, vous avez introduit la dimension historique tout simplement dans l'anthropologie. Donc c'est sur vraiment sur un temps long. analyser, par exemple, moi j'analyse la réorganisation des communautés Guarani, mais dans un temps long, c'est-à-dire 100 ans, par rapport au statut sous à la période coloniale, puisque les personnes ont tendance à essentialiser l'identité Guarani, alors qu'à la base, c'est quand même un statut juridique de dérogatoire de mise au travail, le statut d'Indien, le statut Guarani. Donc, en fait, l'anthropologie historique, c'est 50-50, c'est 50% anthropologie et 50% histoire qui se recoupent et qui se complémentent. Je sais pas si j'ai très bien expliqué, mais.
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent demander des précisions supplémentaires ou alors on passe à la question suivante? La question suivante, c'est est-ce que les gremios sont plutôt des corporations ou plutôt des syndicats professionnels?
Non, c'est vraiment la ligne anarchiste. Donc, les grémeurs, c'est vraiment les corporations de métier. Donc, il n'y a pas de syndicat professionnel, c'est-à-dire que ils se regroupent par métier, tout simplement.
Et alors la question suivante, qui sont les propriétaires et les donneurs d'ordre des entreprises sous-traitantes?
Alors là, il faut plus de précision de quelles entreprises, des entreprises extractivistes.
Oui, Agathe, c'est moi qui pose la question, oui, c'était ça. Les grosses entreprises qui viennent
Alors,
exploiter.
ouais. Généralement, c'est des capitaux étrangers. Les propriétaires sont des étrangers. Pour le cas, par exemple, de la monoculture de riz et de la française qui a des monocultures de riz. Elle a acheté les terres à très bas prix, très 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 bas prix, lors de la présidence de Carlos Menem. Et du coup, généralement, c'est des capitaux étrangers qui viennent et qui investissent dans la région et qui achètent ces terres avec la complicité, entre guillemets, du gouvernement de la province pour ensuite investir, que ce soit dans l'extraction de matières premières ou soit là comme dans l'écotourisme.
Est-ce que tu as des noms d'entreprises, s'il te plaît?
Les noms d'entreprises, j'ai cité le cas de l'université d'Harvard qui a fait des monocultures de pain, mais j'aurais pas d'autres. Après, vous avez la française, mais les noms d'entreprises, je les connais pas plus.
Merci.
Et alors, Bernard demande si tu travailles aussi avec Guillaume Blanc. Bernard, peut-être que tu pourrais préciser ta question, je ne sais pas.
Pardon, mon micro était coupé, du coup on ne m'entendait pas. Du coup, non, du tout, du tout. Je ne connais pas du tout Guillaume Blanc.
Être intéressant que tu prennes contact avec lui parce que il fait les mêmes analyses que toi hein, sur la criminalisation des paysans lors de la création des parcs nationaux et la complicité du WWF, etc. En Afrique, hein. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Le colonialisme vert
Ah oui.
et qui. Qui pose les mêmes questions que toi hein, sur le rapport à la nature.
Alors, la problématique qui se pose désormais, parce que maintenant, face aux critiques, puisque avant, les communautés paysannes n'étaient pas du tout incluses dans ces projets, hein, dans ces projets de protection de la nature, maintenant ils sont inclus, mais quand ils le pensent, quand ils pensent inclusion des communautés, ils pensent création d'emplois, justement, Et du coup, comme je l'ai dit, ils conçoivent, par exemple, les communautés qui se retrouvent employées domestiques dans les grands hôtels, ou alors les communautés font une rémunération à la tâche pour les tours opérateurs de ces hôtels, quoi. Donc, c'est vraiment…
Oui, mais je pense que tu aurais vraiment intérêt à prendre contact avec lui parce qu'il dit la même chose, hein, s'agissant de l'Afrique.
D'accord, merci.
Guillaume Blanc.
Ouais, j'ai noté le colonialisme vert.
Un entretien de hors-série avec lui sur son bouquin récent il y a quelques semaines.
D'accord.
J'étais avec Mathieu, Thierry et Virginie qu'on a attendu et qui n'a jamais pu nous rejoindre. Je n'ai pas très bien compris ce qui s'est passé. Mathieu, tu t'étais proposé.
Maxime.
Excuse-moi, pardon, excuse-moi. J'ai Mathieu devant les yeux et je suis fatiguée et je lis ce qui était écrit. Maxime, excuse-moi, tu es d'accord de faire un retour de notre discussion?
J'ai pris des notes au tout début, mais ne maîtrisant pas le pad, j'ai pas tout suivi non plus.
Thierry, peut-être? Ah, Thierry, tu veux bien relancer ton... accepter le micro, en tout cas. Ok. J'ai l'impression que je vais être
la seule à pouvoir... On teste tout sur les épaules.
Ouais.
je veux bien, Faïsa, je veux bien, ouais.
Bah écoute, vas-y, je compléterai si...
Tu compléteras, si... d'accord. Okay. Donc, notre question, c'était qui décide de quoi? Et on a listé... Oui, Thierry, on t'entend. Thierry,
ouais.
Veux-tu faire un résumé de ce qui s'est dit dans notre groupe avec Saïsa?
J'avoue que j'ai une connexion qui me permet pas d'avoir tout entendu. Mais on a pris des notes. Donc, on s'est posé la question de, dans le modèle de sécurité sociale Guarani, on a discuté déjà de ce terme modèle de sécurité sociale Guarani. Et puis, on s'est posé la question qui décide de quoi? On a discuté des acteurs présents. Donc, on a essayé de lister les acteurs présents, l'État, le marché qui est l'acteur colonisateur, investisseur et entreprise extractiviste, les grémios, autogestion politique et économique à l'origine. Ils décident de ce qu'ils veulent produire, dans quelles conditions, en concurrence avec l'extractivisme. Et là apparaissent donc des statuts de travailleurs dans une économie un peu informelle, sans aucune protection, ces fameux travailleurs à la tâche. En résistance, si on a bien compris, la création du statut monotribu, ça c'est l'initiative de l'État, pensons-nous. Et enfin, en tout cas particulièrement, le statut monotribu zéro qui est à Sistana, quoi. On se posait la question, où sont les quelle est les formes de résistance des grémios? Les corporations se maintiennent-elles malgré tout? Basiquement, les gens ne mangent pas forcément avec un salaire sous-évalué, donc certainement ils continuent à être double actifs ou triple actifs même. Voilà des statuts donc différents qu'on a essayé de lister en voyant. Le statut dans la communauté, dans le monotribu, dans l'emploi, enfin, c'est-à-dire les employés des hôtels et des tours opérateurs, je ne sais pas quoi. Nos questions, c'était pourquoi les grémios ont l'air d'utiliser le statut monotribu pour contrer la précarité du travail à la tâche, c'est ça qu'on comprend. Mais surtout, comment coexistent le statut monotribu et les communautés rurales ou citadines, puisqu'il y a deux formes de communautés, gremios ruraux et gremios citadins. Quelles sont les capacités de résistance de ces communautés tout à fait originales, puisqu'elles sont organisées sous des modes anarchistes, d'après ce que j'ai entendu, j'ai pas tout entendu. Plusieurs formes d'organisation, ça c'était une question pour finir. Est-ce qu'on n'a pas plusieurs formes d'organisation de... Vous m'entendez toujours?
Oui, Thierry, on t'entend.
Voilà, j'ai l'impression que vous ne m'entendez plus. Il y a quelqu'un?
Oui, tu t'entends parfaitement. On est complètement tout seul. On t'entend.
Bah, je crois que j'ai à peu près tout résumé. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs formes encore d'organisation locale qui survivent, liées à d'autres formes de production peut-être? C'était la question. Élevage transhumant. Bon, ça c'est peut-être des pistes. Voilà nos échanges.
Oui.
Deux, trois éléments. Oui. Il y a Maxime, peut-être.
Oui, on a parlé de guerre coloniale internationale qui empêche la souveraineté alimentaire et la souveraineté populaire. Une guerre coloniale internationale, puisque les marchés extracteurs extractivistes sont les marchés étrangers, souvent. Et Faïza rappelait que c'est pas que l'Amérique du Sud qui a été colonisée, c'est l'Amérique tout entière par l'Europe. Et il y a un certain Albert Einstein qui disait qu'on résout pas les problèmes avec les solutions, on trouve pas les solutions avec les problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc est-ce que c'est les Européens qui vont venir en aide à ces gens? Je n'en suis pas sûr. Voilà. Ce que je voulais dire.
Je rajoute dans la présentation qu'on a, comme on l'avait compris, que donc selon, donc on a d'abord déterminé quels étaient les protagonistes dans la présentation d'Agathe. Donc il y avait effectivement l'État, il y avait les travailleurs avec les différents de statut, infra-emploi, gremios. Emploi et travailleurs indépendants. On a parlé aussi de cette utilisation du monotribut qui, d'une part, permettait de sortir d'une forme de précarité, mais qui, en même temps, donnait la main de la décision à l'État, d'après ce qu'on en a compris. Donc, si Agathe avait quelques éléments de précision ou de réponse à nos questions, ce serait bien.
Alors, la stratégie de création, donc les deux fédérations qui se sont créées, d'ailleurs d'abord la fédération paysanne Guarani, la stratégie première c'était vraiment de contrecarrer les flux migratoires. Donc vers les grandes villes et contrecarrer la consolidation de ce salariat. Donc la stratégie qui a été développée, c'était celle de l'anarchisme, c'est-à-dire recréer des gremios, c'est-à-dire les gremios, ce sont des corporations. Donc, recréer des métiers, par exemple, les pêcheurs, les chartiers, les paysans, les charges, etc., pour, en coopérative avec une organisation d'aller. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir décisionnaire pour qui fait, qu'est-ce que fait la fédération. Mais du coup, c'était vraiment une production très faible. La stratégie qui a été décidée, c'était de s'appuyer sur le régime fiscal.
Le groupe A a terminé.
Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Oui.
Oui, on t'entend de nouveau, Agathe. Ça, de notre côté, ça a saccadé, donc on a perdu la fin de ton propos. Je ne sais pas si tout le monde était concerné, mais...
Est-ce que vous m'entendez ou pas?
Oui.
Je suis désolée, j'ai des problèmes de connexion.
Est-ce que tu peux reprendre la fin?
Je ne sais plus où j'en étais. J'en étais donc la stratégie qui a été mise en place pour contrecarrer, si vous voulez, ce salariat précaire, c'est de s'appuyer sur ce régime fiscal qui se rapproche du régime d'auto-entrepreneur et qui s'appuie sur le régime fiscal du monotribu, donc le monotribu en général et en particulier le monotribu social rural à coût zéro, c'est-à-dire que c'est l'État qui prend en charge, qui finance en fait, qui cotise à la place des paysans, puisqu'ils n'ont pas ils ont une capacité contributive limitée. Donc cette stratégie a été mise en place. Et donc oui, c'est l'État qui est décisionnaire. Et pour le moment, il n'y a pas assez de pouvoir économique, il n'y a pas assez de pouvoir politique pour justement s'affranchir de ça, de ces aides. Donc pour le moment, c'est la stratégie qui a été mise en place. Et du coup, capacité aussi productive limitée, parce qu'il y a une problématique qui est le non-accès à la terre, parce que vous avez une pression sur la terre, justement avec l'arrivée des capitaux étrangers qui investissent et qui achètent des terres à très bas prix avec le consentement du gouvernement de la province. Donc, c'est ces capitaux qui viennent investir. Et du coup, vous avez une sorte de pression, pression de la terre, de non-accès, et ça limite encore la possibilité d'agrandir les coopératives. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout.
Mais je pense je propose que le groupe 2 partage un peu ces échanges, parce que ça rejoint des choses que tu viens de citer maintenant. Je ne sais pas si Sylvain ou Virginie, vous voulez, parce qu'on a pris nous des notes dans le document, mais si l'un de vous veut prendre la parole, je ne vous vois pas. J'y vais, je partage un peu ce qu'on s'est échangé. Donc nous, on avait la question de quelle est l'interprétation politique qui est faite de ce statut. Est-ce qu'il s'agit d'une production salariale, une production capitaliste ou une production anticapitaliste, ou un mélange des trois. Donc on est revenu un peu sur ce que tu évoquais autour du fait que c'était l'État qui intervenait à cause des salaires trop bas. On s'est posé la question, enfin des questions autour du fait d'employer le mot assistanat. On s'est posé des questions sur les modalités qui mettaient en œuvre pour organiser leur production. On a eu un petit débat sur est-ce qu'on peut parler de production non capitaliste. Dans le sens où on ne peut pas dire qu'elle est anticapitaliste, mais qu'elle serait sur le chemin d'eux. Alors, sur cette question de la terre, on s'est aussi posé des questions de se dire comment est-ce que, alors que tu, enfin, d'après ce qu'on a compris, tu sembles évoquer qu'ils ont un droit à la terre. enfin, comment ça s'est remis en question par l'État et le fait de vendre les terres. Donc cette pression-là, comment ça s'organise et comment ils organisent surtout la résistance par rapport à ça sur le plan peut-être du droit ou et donc il y avait aussi des parallèles qui étaient faits avec comment ils organisaient la propriété collective de la terre. Ça, c'est plutôt dans des réflexions en lien avec ce qu'on s'était dit autour de la sécurité sociale, de l'alimentation. Alors, il y avait les questions sur comment est-ce qu'on a pris sur le fait que les gens qui deviennent propriétaires des terres, c'est pas, ça peut être enfin, t'évoquais Harvard ou des choses qui sont difficilement atteignables en fait dans les faits. Et donc il y avait peut-être des liens, des ponts à faire avec le travail de Claude Didry sur l'institution du travail, si je me souviens bien, et comment lui décrit aussi l'organisation des travailleurs par rapport à des structures qui deviennent de plus en plus éloignées des travailleurs et sur lesquelles on a de plus en plus de mal à avoir prise. Alors, on s'est posé la question de savoir si le chemin qui consiste à passer par un statut d'indépendant, est-ce que c'est désirable au sud comme au nord ? Et alors, il y avait des précisions sur le contexte plutôt de l'Argentine, de dire que le régime des pensions a été privatisé sous Kirchner, déprivatisé, pardon, sous Kirchner et sa femme Cristina Fernandez à partir de 2009, et qu'à partir de 2015, il y avait des attaques massives avec l'arrivée au pouvoir de Menem. Est-ce que j'ai fait le tour ? Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour. Je ne sais pas si Sylvain et Virginie veulent compléter. Peut-être qu'après, Agathe, tu peux nous... Si tu as des éléments de réponse.
Oui. Oui, alors j'ai oublié un élément dans le groupe 1. C'était une question par rapport à l'élevage et la transhumance, etc. Oui, elle est très intéressante cette question, puisque les communautés paysannes et guaranies font beaucoup d'élevage, mais qui rapportent très peu, et c'est pour ça que certains veulent se tourner vers le tourisme, et notamment avec la concurrence du Brésil et du Paraguay et les prix très bas du Paraguay et du Brésil. Donc du coup, l'élevage ne rapporte plus grand-chose, et c'est pour ça que certains veulent se tourner vers le tourisme. Bon, voilà, je clôture juste pour le groupe 1. Donc du coup, pour vos questions, donc si c'est un statut capitaliste, pas capitaliste, les deux, donc si vous voulez... Non, c'est entièrement capitaliste et ça s'appuie sur les aides de l'État. C'était juste que comme on n'avait aucun pouvoir économique et aucun pouvoir politique, c'était la seule possibilité stratégique pour nous de s'appuyer sur ce régime fiscal. L'objectif étant de développer la capacité productive des fédérations. Donc, on a essentiellement pour le moment des fédérations de production, mais l'idée est de créer également des fédérations de consommation, et l'objectif, c'est de créer des caisses au niveau de ces fédérations. Enfin, ce serait de créer une confédération justement au niveau local, et c'est de créer des caisses où chaque travailleur pourrait mettre quelques deniers dans la caisse, mais bon, on en est loin, hein, puisque là, ça fait, donc on a réussi au bout de 10 ans à avoir 2 fédérations déjà, donc je pense que on en reparlera dans 10-15 ans. Donc pour le moment, c'est la seule stratégie qu'on a pu avoir pour commencer à construire ces fédérations. Et justement, on en vient à la problématique de la terre, du non-accès à la terre. Et donc, comment ils font pour avoir des terres? Bah, dans la logique anarchiste, c'est la prise de terre, puisqu'ils considèrent que les terres sont collectives. Et du coup, c'est des prises de terre, entre guillemets, illégales. Et c'est ce que je disais quand on était en demi-groupe. J'avais mis la citation dans mon PowerPoint. Cultiver, c'est posséder. Donc, c'est une loi qui n'est pas inscrite au niveau institutionnel, mais c'est une loi qui implicite, si vous voulez. Donc, la stratégie est de prendre des terres et de tout de suite cultiver, puisque c'est très mal vu dans l'opinion publique si la police intervient et qu'il y a des cultures et que les cultures sont détruites dans un contexte où la sécurité alimentaire n'est pas là. Et du coup, c'est très mal vu. Donc, la stratégie, c'est celle-là, la prise de terre, en sachant que les terres, il n'y en a plus beaucoup, puisqu'il y a une pression de la terre au vu de l'arrivée de capitaux étrangers dans la région qui viennent investir, que ce soit pour l'écotourisme ou pour des activités extractivistes. Donc oui, le statut d'indépendant, est-ce qu'il est désirable ou non? Alors je poserai pas la question. Nous on s'est pas posé la question s'il était désirable ou pas. Je sais très bien que les militants anarchistes et même les communautés ont conscience qu'ils sont dépendants de l'État pour le moment et que ce sont des aides et qu'ils sont ils sont dépendants de. Mais on s'est vraiment posé de manière stratégique en fait. On s'est pas posé la question de selon est-ce que c'est désirable ou non désirable, puisque la question est tranchée directement, c'est non désirable bien entendu, puisque l'objectif est de s'affranchir de l'État et d'avoir une indépendance au niveau local, une indépendance productive et une indépendance monétaire. Je ne sais pas si j'ai répondu à tout, c'est clair.
Merci beaucoup Agathe.
Le troisième groupe, alors?
Oui. Alors, troisième groupe, j'ai mis dans les notes partagées là, le résumé, j'ai pris des notes. Si Bernard et Didier veulent ajouter des trucs, évidemment, n'hésitez pas. Et je propose de faire le résumé, si ça vous va.
Ok.
Donc, beaucoup de choses ont été dites de ce dont tu as discuté. Nous, on a eu la chance d'avoir Agathe dans notre groupe. Donc, on a finalement abordé les trois axes de discussion, et on est même allé un peu au-delà, en parlant un peu de l'international. Donc, nous, ce qu'on avait compris, c'était, ce que nous a dit donc Agathe, c'était effectivement quelque chose qui était complètement sous contrôle de l'État. Les intéressés eux-mêmes n'ont aucun droit de gestion, donc sur ce monotribut, ces monotribus, mais c'était un point d'appui pour ces paysans, un point d'appui pour survivre tout simplement. Parce que leur production, leur capacité productive et les tarifs auxquels ils vendent leur production ne leur permet pas d'assurer une subsistance et d'être finalement autosuffisants. Un ajout aussi, c'est que ça concerne finalement 1000 personnes, hein, c'est comme ce dont a parlé Agathe, cette fédération. Il faut savoir que c'est 1000 personnes, donc on s'est aperçu que c'était finalement quelque chose de très réduit, malgré le territoire immense qu'elle nous a présenté, très beau d'ailleurs, très joli les photos. Voilà, c'est 1000 personnes pour l'instant qui sont organisées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a parlé donc de la propriété de fait, ça je ne vais pas y revenir. C'était intéressant aussi de souligner que, donc à la base, c'était parti d'une organisation qui était partie des paysans, qui s'étaient constitués eux-mêmes pour résister aux multinationales et à l'environnement économique, et qu'ensuite étaient venus se greffer un peu là-dessus des militants anarchistes venus des villes, de Buenos Aires, et donc qui ont emmené avec eux le bagage théorique idéologique inspiré de Murray Bookchin. Donc il y avait un peu deux mouvements et deux rencontres un peu qui s'étaient faites par rapport à ces organisations écologiques. On a parlé des liens internationaux, on a voulu voir un peu, pour dézoomer un peu sur cette région, est-ce qu'il y avait des liens avec des organisations paysannes, des organisations internationales. Et donc elle nous a parlé au niveau national d'un réseau, le réseau TICA, T-I-2-C-A, qui a été constitué très récemment, il y a 2-3 ans, et qui est représenté au niveau international finalement, qui a une représentation au niveau international, un peu comme Via Campesina. Ça, c'est, j'imagine que c'est un réseau que tout le monde connaît, c'est un réseau de paysans à l'échelle mondiale, je crois, parce qu'il y a même en Belgique une antenne de Via Campesina. Et donc voilà, ça c'est l'organisation un peu plus large, disons, qui s'inscrit dans un mouvement politique, en tout cas paysan, plus large que uniquement cette région de l'Argentine. Ils ont des liens aussi également avec les Chiapas, d'après ce que nous a dit Agathe, donc ils ont fait des rencontres avec des paysans du Chiapas. Et voilà, elle n'a pas su nous dire comment était organisé, sinon au niveau technique, l'impôt, les cotisations, sur quelle recette finalement, quelle base de calcul. Est-ce que c'était par rapport à la masse salariale, est-ce que c'est par rapport à la valeur produite, au chiffre d'affaires, est-ce que voilà, il n'y a pas vraiment d'éléments de réponse par rapport à ça. Comme elle l'a dit, les contributions de ces paysans ne suffisent pas à alimenter le régime. Donc finalement, c'est comme si c'était une subvention de l'État qui leur permet donc de la santé, des retraites et un revenu minimum. C'est ce qu'on a compris, mais sur le mode assistentiel, quoi, sur le mode complètement assistentiel. Voilà, Bernard, Didier, si vous avez des choses à ajouter. Bernard, tu avais parlé d'un livre, peut-être que tu pourrais l'évoquer. Tu branches ton micro, Bernard.
C'est mon micro, oui, je mettais mon micro. Oui, ben, c'est celui que j'ai signalé à Agathe dès le départ, hein, c'est-à-dire l'ouvrage de Guillaume Blanc, hein, sur le colonialisme vert, qui dit des choses très semblables à propos des parcs nationaux africains, mais qui ne porte pas sur l'organisation des paysans, comme on vient d'en parler, nous, ici.
Merci Bernard. Didier, peut-être ?
Je crois que tu as bien retranscrit ce que j'avais noté aussi. Donc, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Voilà. Je trouve que c'est intéressant l'apport de Murray Bookchin dans cette province. Voilà. Ça mériterait d'être creusé en lien avec peut-être ce qu'on va avoir avec plus tard les apatistes, quoi, aussi. Voilà. C'est intéressant de croiser un petit peu ces pratiques. Voilà.
Et si je peux rajouter quelque chose, là, on voit bien, enfin, c'est vraiment intéressant, on voit bien l'international, un internationalisme des idées, en fait. C'est les idées qui circulent de l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud, mais aussi au Rojava, puisque les Kurdes s'appuient essentiellement sur les idées de Murray Bookchin. Donc, c'est vraiment mondial, c'est des idées qui circulent dans des aires culturelles comme ça, et c'est vraiment intéressant. Donc oui, ce serait à creuser.
Merci Agathe. Pour la suite du programme, Sam, Faiza, en principe on doit s'arrêter là. Est-ce que peut-être on ferait un tour de parole, c'est une suggestion que je fais maintenant. De 1 ou 2 minutes par personne, un petit tour de parole, si quelqu'un veut ajouter une réflexion, une conclusion, des questions supplémentaires. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que quelqu'un s'oppose à ça ? brancher les micros. Ok, parfait. Du coup, je propose que ceux qui veulent parler inscrivent dans le chat, dans la discussion, ils mettent parole. Et comme ça, ben, je leur donne la parole chacun son tour. Et je chronomètre 2 minutes maximum. S'il vous plaît, essayez un peu d'être court, de ne pas rentrer dans des longs tunnels. On peut, à la limite, faire une petite pause d'une ou deux minutes, histoire que vous puissiez formuler votre question tranquillement, ou alors je lance déjà ceux qui ont une réflexion déjà fraîche et préparée. J'attends un petit peu pour distribuer les paroles. Je vois que Sylvain est prêt dans les starting blocks. Les autres, n'hésitez pas, hein, même si c'est des questions, des réflexions qui ne sont pas abouties, évidemment. C'est souvent ces questions-là qui sont les plus intéressantes finalement. Donc n'hésitez vraiment pas à, ne serait-ce qu'à donner un avis sur ce qui a été dit, sur ce que ça vous a apporté. Et voilà, profitons-en que nous soyons en petit comité pour prendre la parole. Didier veut bien commencer. Sylvain, je sais que tu bouillonnes, je te laisse la parole juste après, ça va?
Ah d'accord, oui, bon ben d'accord.
Voilà, vas-y Didier, c'est à toi.
Juste, moi je voulais peut-être, par rapport à ce que Agathe a présenté, au niveau des prises de décision dans les communautés, comment ça se passe, quoi, par rapport à toute la réflexion anarchiste, quoi. Voilà, peut-être, voilà, un lien... Bon, j'avais un petit peu entendu parler de ce qui se passait au niveau de la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, quoi. Comment se prenaient les décisions. Donc, je voulais voir un petit peu comment ça se passait là-bas. Et peut-être par la suite aussi, trouver des intervenants pour parler aussi de ce qui se passe au Rojava, ce que tu disais, Agathe, quoi. Voilà. En lien avec les apatistes aussi, quoi. Je pense que c'est important de confronter nos idées avec les milieux libertaires, quoi. Voilà.
Merci Didier. Tu parles d'éventuellement avoir des témoignages et tout. Est-ce que tu penses à des noms? Est-ce que tu as des idées de personnes qu'on pourrait contacter sur le Rojava, sur le Chiapas, sur... Est-ce que tu as des noms en tête?
Pas pour l'instant, mais je pense que je me renseignerai, quoi, pour avoir des noms de personnes, quoi.
Merci Didier. Sylvain, vas-y, fais ta part.
Oui, alors moi j'ai juste une question là par rapport aux notes là que tu as mis. Tu as mis CCL. Alors je sais pas de quoi tu. Tu as mis CCL, c'était un modeste point d'appui, je sais pas quoi et tout. Quoi. C'est quoi CCL?
Ça veut dire conclusion, pardon.
Ah, conclusion. Ah oui, d'accord. Bon, bah c'était juste ça. Voilà.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous faire part de sa réflexion? Sinon, je me lance, hein, j'ai une petite minute, mais j'aimerais bien qu'il y ait d'autres interventions. Sinon, c'est pas grave. Allez, j'y vais. Moi, je voulais faire un lien avec un pays dont on ne parle pas beaucoup, que les écologistes ne citent bizarrement, étrangement pas beaucoup, c'était Cuba. Par rapport à cette planification écologique, ou transition écologique, ou changement du modèle d'agriculture, quelle que soit l'appellation, Cuba, dans les débuts des années 90, a perdu l'alliance avec l'URSS, après la chute de l'URSS, et s'est retrouvé complètement isolé et face à lui-même. Et il était sur une agriculture vraiment basée sur une monoculture intensive de canne à sucre, avec des grandes parcelles destinées à l'exportation, donc avec dans le cadre du commerce et des échanges avec les blocs de l'Est. En échange, ils recevaient, l'URSS achetait la totalité quasiment du stock de sucre de Cuba à un prix fixé qui n'avait rien à voir avec les lois du marché. Et donc, qui garantissait à Cuba une espèce de revenu garanti. Et puis, quand il y a eu la chute de l'URSS, Cuba s'est vraiment retrouvé dans la merde. Et en 10 ans, ils ont changé complètement leur modèle d'agriculture. Ils sont passés à des petites parcelles de culture, des coopératives, pluriculture, agroécologiques. Ils ont interdit les pesticides et sont devenus quasiment suffisants alimentaires, quoi. Je crois que 80% que se consomment les Cubains est produit à Cuba. Enfin, c'est impressionnant. Et ça, c'est pas analysé, malheureusement. On dit souvent, ce qui a causé ça, c'est le blocus. Finalement, par nécessité, ils n'avaient pas le choix et ils ont fait ça. Sauf que en Irak, il y a eu un blocus, exactement de la même façon dans les années 90. Il y a eu 500 000 morts. À Cuba, il n'y a pas eu 500 000 morts. Donc, on veut souvent cacher ou ne pas voir le rôle finalement de l'État socialiste. État socialiste ou caisse, ou enfin, en gros de l'organisation socialisante, et que seul un État socialiste ou un État qui possède la terre, qui possède, je sais pas comment dire, pour passer d'un modèle de monoculture à pluriculture écologique, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut de l'argent. Ça se fait pas du jour au lendemain, il faut des énormes investissements et ça coûte très cher. Et seul finalement un État peut faire ça, a les moyens de financer des universités publiques et former des agronomes qui vont pouvoir dire aux paysans, voilà, votre type de sol, de quoi il est constitué, vous pouvez cultiver ça, ceci, cela. Seul un État socialiste peut garantir que des syndicats vont pouvoir être impliqués. Et donc, il y a un immense réseau qui s'appelle l'ANAP, en Cuba, où les paysans sont organisés à l'intérieur et on vraiment voit au chapitre. Et seul un État socialiste possède la terre, il peut la donner en usufruit aux paysans, qui peuvent la cultiver sans avoir payé de loyer, et finalement leur donner les moyens de réorienter leur agriculture. Mais sans l'accord des paysans, c'est juste pas possible. D'où l'intérêt d'avoir une ANAP et un réseau paysan organisé. Voilà, juste pour dire ça, que c'est Cuba, c'est vraiment un exemple à analyser, et surtout le rôle de l'appui qu'on peut avoir quand on a le pouvoir, et les bricolages que l'on est obligé de faire quand on n'a pas le pouvoir, finalement. Voilà, je m'arrête là. Pardon, j'étais un peu long. Vas-y, Dorothée.
Ben pardon, c'est ça. Je ne sais pas si c'est. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Je ne sais pas du tout si c'est pertinent, mais c'est une piste peut-être qui serait intéressante à creuser. C'est que, comme l'Albanie, qui est notre Corée du Nord à portée de main, qui est un endroit qui aujourd'hui est complètement. Qui vit des grands tourments, mais qui a été pendant presque 50 ans complètement autarcie, qui avait complètement une autarcie économique et du point de vue de l'agriculture. Je pense qu'à une certaine époque, c'était un endroit un peu hype dans les milieux, dans les gens qui s'intéressaient à l'autonomie yougoslave et des trucs comme ça. J'imagine qu'il doit y avoir de la documentation sur comment ça marchait l'agriculture dans un pays complètement clos où il y avait très très peu d'apports extérieurs. Bon, je ne peux pas aller beaucoup plus loin, mais c'est une piste de réflexion historique.
Merci Sam. Virginie, veux-tu rajouter quelque chose ? Agathe veut faire une thèse, tu vas faire une thèse sur l'agroécologie à Cuba, c'est ça? Tu peux nous en parler un peu?
Non, je disais juste que c'était. Non, pas moi, j'ai déjà. Non, je suis actuellement en thèse, donc non, je ne vais pas refaire une deuxième thèse. Du coup, non, je disais que c'est une thèse en préparation qui est en train d'être faite.
Par qui ?
Par Marie, à l'EHESS.
Ok. Intéressant.
À suivre, je ne sais pas si elle est. J'ai trouvé ça intéressant.
Mais oui. Pour en parler aussi, si vous voulez avoir des sources là-dessus, je vous recommande le bouquin de Guillaume Suin, qui a écrit un livre, donc qui est un biologiste agrégé de biologie en France et membre de Rassemblement communiste, donc c'est un communiste, un marxiste, qui a écrit un bouquin sur. L'écologie réelle, une histoire soviétique et cubaine. Et donc, il parle un peu de cette histoire-là. Malheureusement, complètement occultée par des milieux écologistes, malheureusement, et qui montre à quel point, finalement, des pays qui ne se revendiquent pas de l'écologie de façon affichée, ostentatoire, mais par souci d'indépendance nationale et par prise en compte de la lutte des classes, finalement, des questions de classe, ont des réalisations beaucoup plus écologiques, très fortes, sont pionniers dans l'écologie par rapport à des pays qui se revendiquent écologistes et qui finalement se font totalement bouffer par les multinationales et les impérialistes. Mais voilà, je pense que sans anti-impérialisme, il n'y aura pas d'écologie possible. Agathe, Sylvain demande, c'est Marie, comment tu vas faire la thèse? Marie Oreille, ok. Donc c'est l'EHESS. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Fais-la partager un lien, donc le lien du réseau, du forum. Nous sommes là, nous vous invitons à aller le consulter, évidemment. On mettra des liens, des ressources et des résumés, ainsi que des enregistrements de nos différentes interventions qui ont eu lieu dans le cadre des automnales. Il y avait eu des présentations sur l'histoire de la sécurité belge, il y avait eu des présentations sur les échanges inégaux de Bruno Borin. On a eu le groupe Réseau Salariat Sécurité Alimentaire qui nous a fait une présentation et on a eu aussi des présentations d'un groupe sur la monnaie qui nous a présenté des brochures sur l'import-export, etc. Donc, toutes les dimensions internationales, finalement. Donc, n'hésitez pas à aller sur le forum. Virginie nous dit pour Cuba, ça a été un moment très dur pendant plusieurs années, depuis le début des années 90. Mais il y avait eu le processus de rectification depuis le début de la Révolution. Mais il y a eu le processus de rectification à partir de 86 qui a permis à l'État d'aider à réorienter la production. Effectivement, je crois que l'État cubain, le Parti communiste cubain, avait fait un peu une autocritique par rapport à ses premières erreurs. Et ils ont réorienté leur politique au fur et à mesure de la Révolution. Évidemment. Ok. Merci Virginie. Par rapport à Cuba, je vous invite à aller voir des reportages, La Révolution Cuba, La Révolution et le Monde, un documentaire extraordinaire, Cuba, La Révolution et le Monde, et des interviews aussi de Fidel Castro, on lui pose des questions un peu sans concession, on lui dit, et il revient un peu sur la Révolution, ses erreurs et tout. Voilà, bon, on va arrêter de parler de Cuba, on peut parler d'Argentine, de Chiapas, du Rojava. Allez-y, prenez la parole. Évidemment, c'est intéressant si vous avez des interventions.
Du coup, je vais prendre la parole aussi parce que j'ai trouvé cette présentation vraiment super intéressante et. Moi, j'avais en tête que la journée d'aujourd'hui était consacrée à d'autres formes de déjà-là, parce que, bon, voilà, nous, on part du déjà-là à partir de la situation française. Et ici, c'était vraiment, à mes yeux, une façon d'aborder justement un autre cheminement qui amène la question du commun. Et j'y ai trouvé exactement ce que j'y attendais, c'est-à-dire un état des lieux, des rapports de force, quelque chose comme ça, qui amène précisément d'emblée la question de la souveraineté alimentaire, mais derrière aussi de la souveraineté populaire, qui a abordé les axes principaux de nos thèses, à savoir la dimension de la propriété, puisque ici il y a une définition de la propriété qui, lorsqu'on pourrait dire que c'est une autre forme de définir la propriété d'usage, de dire la terre appartient à celui qui la travaille, ça me met vraiment en écho avec la question de la propriété d'usage. Sur la question de la décision de production, on voit très bien justement à quel point c'est crucial, et à quel point c'est un enjeu de classe et aussi un enjeu colonial, puisqu'on a ces communautés qui tentent d'établir par elles-mêmes qu'est-ce qu'elles veulent produire et dans quelles conditions, donc avec comme objectif la souveraineté alimentaire, d'aller sur des productions qui sont locales et qui sont bio. Et puis de l'autre côté, on a une attitude agressive d'importation de matières qui ne correspondent pas du tout à ça, et qui rendent la souveraineté économique plus compliquée, d'après ce que j'en ai compris. Je ne sais pas si Agathe, tu es d'accord avec ce que je dis, ou si tu as des choses à rajouter.
Agathe, et puis ensuite il y aura Thierry.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Faïza. Tu as très bien résumé. Tu as très bien résumé tout ça. C'est exactement ça.
Merci Faïza. Merci Agathe. Vas-y Thierry, c'est à toi.
Oui.
On t'écoute, on t'entend.
Ah oui, parce que oui, moi, ce qui m'a paru un petit peu compliqué pour suivre, je voulais saluer Agathe, ça fait plaisir de l'écouter, et c'est passionnant. J'ai eu un peu de mal à suivre parce que j'ai des coupures de son. Je crois que c'est la liaison ADSL de Mireval au Lauragais. Et du coup, je me dis, ça serait pas mal d'avoir les PowerPoint ou un texte pour suivre ce que nous raconte Agathe avant l'atelier. Ou alors, j'ai loupé quelque chose dans les échanges de mails auparavant. J'ai pas vu cette possibilité de se documenter sur le thème. Quand on a les coupures de son, on peut espérer quand même vous suivre. Sinon, je pense que c'est un sujet qui me passionne de plus en plus, comme je m'occupe de la question de la gestion de l'eau dans le Lauragais. Ce serait de décrire la colonisation des territoires par les GAFA grâce aux élus colonisateurs. C'est une réflexion que je me faisais au passage. Nous sommes colonisés par nos propres élus. C'est original. Un sujet un jour. Je soutiendrai la tête si j'ai le courage. Voilà, c'est tout.
Merci Thierry. Par rapport à la question des ressources et des commentaires, est-ce que peut-être Sam peut nous dire si le PowerPoint de Agathe va être mis sur le forum?
Je peux dire deux choses à ce que tu viens de dire. La première chose, c'est que les. Non, malheureusement, enfin, c'est pas comme ça qu'on a procédé. On peut y réfléchir pour la suite, mais les documents ne sont pas. On ne les a pas postés à l'avance, donc tu n'as pas raté de communication. On n'a pas fait. Par contre, ce que je vais faire dans les jours qui viennent, c'est que, comme je l'ai fait pour les autres vidéos, c'est qu'on va. Là on est en train d'enregistrer, donc je vais refaire une vidéo enregistrée où il y aura le PowerPoint plus l'intervention d'Agathe mais je sais que ce n'est pas satisfaisant par rapport à ce que tu dis, et on va y réfléchir pour les derniers ateliers. Et alors, la dernière chose que je voulais te dire, c'est une blague honnête entre nous, mais si tu veux réfléchir à la colonisation par les GAFA, il ne faut pas hésiter à utiliser notre outil meet.coop, quoi, puisque c'est notre camarade Natacha qui nous a mis ceci entre les pattes, et c'est un outil qui recourt pas à aucune GAFA et qui est hébergé dans une coopérative. Donc voilà l'idée.
Et Agathe, est-ce que tu as, donc j'ai mis une question là dans la discussion, est-ce que tu as publié ton travail, est-ce que tu as produit des textes qu'on pourrait consulter, des articles ou des choses comme ça? N'hésite pas à nous les envoyer, ça pourrait intéresser.
J'ai fait mon mémoire de master sur ça, mais ça va pas vous intéresser. Après, mes articles sont pas vraiment sur ça. Après, j'ai un blog hypothèse. Je peux passer le lien
sur ça. Vas-y, envoie.
Mais sur ces questions spécifiquement, parce que c'est vraiment mes interventions sont plus tournées vers des écrits scientifiques. Enfin, dans le sens où, tu sais, c'est des écrits universitaires. Donc, je sais pas vraiment si ça va intéresser les personnes présentes, puisque là, c'était vraiment une intervention plus... Enfin, pour moi, c'était pas une intervention universitaire, c'était plus une intervention militante, donc avec des problématiques et des questionnements beaucoup plus militants. Mais je peux donner les liens, hein, j'ai pas de souci à donner les liens, et puis après, vous ferez le tri, hein.
Oui, merci. Démocratisons la production
universitaire. Juste sur ces questions-là, on a fait un documentaire en 2017. J'ai accompagné un documentaire d'une amie qui a fait un documentaire justement sur ces fédérations et sur ces problèmes-là, d'écotourisme, d'entreprises extractivistes. Et du coup, le documentaire est en lien et sur YouTube. Je peux vous passer le lien. Je vais vous passer le lien.
Volontiers.
Justement, c'est un documentaire qui a été fait pour être vu par des militants. Donc, le format, c'est pour être vu par les militants. Il a été projeté, je sais, il y a 2-3 ans à Peuple et Culture à Tulle. Je vais vous passer le lien. Donc, déjà ça, et puis...
Maxime est en connexion avec les Martiens, visiblement. c'est même plus qu'internationaliste, là, c'est interplanétiste, c'est cool.
Ce que je voulais préciser également, c'est que bon, c'est un gros détail, mais l'Argentine, par rapport à ses confrères latino-américains, est le seul pays qui n'a jamais fait de réforme agraire. Juste. Ça a toujours été fondé sur un modèle agro-exportateur avec l'élite bourgeoise du pays en Argentine. Donc, ça n'a. Et non, en Argentine, la réforme agraire n'existe pas. Juste, c'est un petit détail. Et également, je n'ai pas répondu à la question de Didier. Du coup, je ne sais pas si je réponds maintenant ou après.
Vas-y, et ensuite, on laissera parler Maxime.
Ok. Du coup, sur la question de Didier, je ne sais pas s'il est encore là. C'était sur les terres. Le mode de décision, c'était ça?
Oui, c'est ça, oui.
Si tu veux, chaque coopérative a une assemblée et c'est dans ces assemblées que se décide est-ce que cette action-là se fera, quelle est la stratégie adoptée pour plus tard, etc. C'est vraiment c'est l'assemblée qui est décisionnaire. Alors, je sais, Pour les communautés paysannes, c'est comme ça, mais si tu veux, pour les communautés autochtones Guarani, ils sont organisés différemment, c'est-à-dire que quand ils rentrent dans la fédération, donc ils doivent se plier, entre guillemets, et suivre un peu la politique de la fédération, mais ils ont une autre forme d'organisation, puisque les communautés autochtones élisent un cacique, donc c'est le chef de la communauté autochtone, et c'est lui qui va prendre les décisions. Donc, il y a les réunions des différentes familles de la communauté Guarani, et c'est le cacique qui décide en dernière instance, mais comme il est intégré à notre fédération, il doit suivre quand même la politique, la ligne politique de la fédération. Mais sinon, c'est essentiellement le mode de l'assemblée, et tout est discuté en assemblée, et les décisions sont prises de façon... de façon commune, collective. Et au niveau des terres, quand par exemple, donc par rapport les communautés autochtones, donc c'est des terres plus communautaires, donc qui appartiennent à la communauté. Sinon, c'est des terres collectives, donc qui appartiennent, entre guillemets, c'est un mauvais mot, mais qui appartiennent à la fédération. Voilà. La fédération ne va jamais acheter de terre, par exemple, ne va jamais louer de terre. Ça, c'est une ligne politique directrice. Il n'y a pas d'achat de terre et il n'y a pas de location de terre, puisque c'est la ligne politique anarchiste. Voilà, c'est vraiment une appropriation des terres. Comme disait Faïza, terre et liberté, celui qui est... la terre appartient à ceux qui la cultivent.
Maxime? Peut-être que Maxime a un problème.
Je suis là.
Vas-y, on t'entend bien.
Le micro d'Agathe s'est coupé, je crois. Elle n'avait pas fini son propos, Agathe.
Si, c'est bon, je te laisse la parole.
D'accord, ok. Non, je voulais te demander le titre du commentaire sur YouTube, et c'est bon, je l'ai trouvé. Voilà. Et merci pour ton intervention, très riche. Et puis je souhaite une très bonne visioconférence non mixte aux femmes, qui ne peut que faire avancer la lutte.